Midrash, le Bechor, c'est quand même Reshit Gamour, et surtout lorsqu'il s'agit d'un homme premier-né. Parce que là, non seulement il est âme, mais premier-né. Et alors, il est premier-né absolument. Il est le commencement absolu. Ulchach, din Bechor, bahamo. Et c'est pourquoi on trouvera cette mitzvah du rachat du premier-né aussi chez l'âme, machinon tunsa bechum behematmea. Ce que tu ne pourras trouver dans aucune espèce impure. Les fichach, et c'est pourquoi c'est l'âme qui sera par privilège la monture de ces trois tzadikim, donc Abraham, Moïse et le Messias, dans le Midrash, les Fichar. Miyuchad ha-hamor le'inyan shlosha tzadikim elu, le ma'alatam, à cause de leur niveau d'être, il s'agit des tzadikim, puisqu'ils sont vraiment très séparés de la matière, alors ils ne peuvent être reliés à la matière que par le niveau de la matière. Le plus matière, paradoxe, mais ça veut dire le plus indifférencié, le plus charnière possible avec la sainteté d'au-delà de la neuf. Les Mahalatam, Shayun, Nidali, ils étaient séparés, ou Mitnaseim, Al-Homera Olam, surmontant la matérialité du monde, Reuim, Sheyu, Rochrim, il était convenable qu'ils chevauchent, Al-Davar, Sheyu, Reshit, sur ce qui est commencement, comme cet âne, chez Ureshit, qui est commencement, ou basé à Ochev Alav, ou Nivdal Legamre. Et par là, celui qui chevauche l'âne est vraiment séparé du monde tout en y étant relié. Et Veaven Dabarze Meot. Et comprend tout ce qu'on vient d'apprendre beaucoup. Bon, je crois qu'on a compris un peu en tout cas. Et s'il n'y a pas de questions, on peut avancer. Là, nous allons aborder un niveau de correspondance encore plus, un peu plus complexe et un peu plus difficile. C'est peut-être nécessaire de faire un bilan très simple. Au-delà, si vous voulez, de toutes les analyses de détails, c'est le fait qu'il se passe à ce moment où Moïse va chercher sa femme et ses enfants chez Jéthro et les installe sur l'âne, il se passe quelque chose d'extrêmement important dans l'histoire du monde. C'est le fait que va apparaître pour Moïse la même indication qui nous avait été donnée pour Abraham, qui nous sera donnée pour le Mashiach, c'est que le moment est arrivé que cette âne du commencement apparaisse. Abraham, c'était le commencement de l'histoire des engendrements d'Israël. Le Mashiach sera le couronnement. Et entre Abraham et le Mashiach, il y a tout cet effort qui est représenté par Moïse de constituer ce clan Israël. Je reviens rien que sur un point que nous avons vu avant-hier, qui me paraît important. Ça nous renvoie à un autre chapitre, mais enfin je l'indique quand même. C'est très important de savoir que Moïse n'a pas laissé en dehors de cette sainteté d'Israël sa femme et ses fils. Parce que, précisément, sa femme et ses fils, ici, dans ce problème, représentent la tentation qu'il peut y avoir de changer de nation, et de faire réussir les idéaux des patriarches d'Israël avec une autre nation ou un autre peuple qu'Israël lui-même. Je crois un peu par la bande, mais enfin assez directement relié, nous retrouvons le sujet général de la semaine. Au fond, cette tentation de l'assimilation par la Haskala, au ciel des Lumières, c'est un peu cela. C'est-à-dire être tenté de changer la société juive comme elle, par une autre société, d'un autre style de civilisation, pour y faire passer précisément les idéaux des patriarches, pas n'importe lesquels. Et c'était au nom de ces idéaux hébraïques de l'Antiquité, des prophètes de la Bible, comme on disait, de façon un peu schématique, parce que c'est plus que cela, c'est pas que cela, c'est aussi toute la sagesse talmudique, mais d'essayer de faire passer ça dans une société éclairée du temps, celle de Vienne, ou celle de Berlin, ou celle de Paris, ou celle d'ailleurs, c'est un peu la tentation midiane, comme je l'avais définie souvent. Après tout, le fait que Mendelssohn ait écrit sa traduction de la Bible en caractère hébraïque, pour que les juifs des ghettos, qui ne savaient pas lire l'allemand, apprennent l'allemand en caractère hébreu, eh bien, c'est cela que ça indique. C'est la tentation midiane. Bien. Voilà donc ces trois moments. Alors nous pouvons, je pense, avancer. Je propose que, avant la Hafsaka, on travaille encore une demi-heure peut-être. Ensuite, on prendra 10 minutes de. de détente. Umashe Amrou, qui a Hamor Sherachav Alav Avraham, Moshe au Mashiach, est ce que l'on nous a indiqué dans le Midrash, que cette âme sur laquelle montaient Abraham, Moïse et le Mashiach, Shu Hamor Echad Velo Shlosha, que c'est un Hamor et pas trois. C'était trois époques radicalement différentes. Et la troisième n'étant pas encore venue d'ailleurs, mais il s'agit de trois époques différentes. Et oui, on ne nous a pas dit que c'est le même Hamor, mais qu'il est un, Echad, okay? Hamor Echad. Kiadvarim Asherem Mehulakim. Voilà le principe qu'il faut comprendre pour cela. Les choses qui sont différentes l'une de l'autre, séparées l'une de l'autre, Mehulakim. Cela vient de ce que, ou c'est parce que chacun a un niveau pour lui-même, un niveau d'être pour lui-même. C'est mon cher Mouzal, et ici le Maran nous cite une Mishnah très importante de Pirkei Avot, En lecha davar she'en lo makom. Il n'existe pas pour toi, littéralement. Tu ne trouveras dans ton monde aucune chose qui n'ait son endroit, sa place. Et vous vous rappelez de la Mishnah, En lecha davar she'en lo makom, ven lecha. La suite, ma she'en lo. Non, ça tu inventes. Oui. C'est une braïda. Ven lecha adam she'en lo sha'a. Sha'a. Et tu n'as pas d'homme qui n'a pas son heure. Okay. Ici, c'est important. Ça veut dire que les choses qui existent dans l'espace, alors chaque chose a son endroit, et là où il y a une chose, il n'y a pas l'autre, ça s'exclut. Et l'homme, dont la manière d'exister est la durée, alors il n'y a pas d'homme qui n'ait son heure. Et revenons à la formule qui concerne l'espace et les choses. Je pense que c'est suffisamment clair. Ça veut dire c'est son heure d'être celui pour qui le monde a été créé. Enfin, je parle un peu en imageant, et qu'à cette heure-là, eh bien, c'est lui le centre et tout le reste est autour. Il faut savoir que chacun a son heure, puisque chacun a l'obligation de se dire c'est pour moi que le monde a été créé. Bien, c'est un chapitre pour lui-même. Alors, c'est important de comprendre cela. Que l'on a. Chaque chose a un niveau d'être qui le concerne, qui la concerne en particulier, en quoi il est radicalement différent de tout autre, ce qui fait la spécificité vraiment de chaque chose, son caractère spécifique. Dans le monde, il n'y a rien qui touche Nogéar, se dire qui s'empare ou qui prend ce qui concerne autre chose. Comment traduire ça plus clairement? Ça veut dire que rien ne peut devenir autre. Enfin, si vous voulez, c'est une des expressions possibles du principe d'identité. Quelque chose qui est très important à comprendre. Nous sommes dans un monde tel que là où il y a quelque chose, il ne peut pas y avoir autre chose. L'espace exclut cette confusion des choses. Alors, chaque chose a son endroit, chaque chose a sa place. Et c'est pourquoi, lorsque il y a deux choses qui ont la même définition jusque dans le caractère spécifique, ce qui n'existe pas en général, ou madriga achat est un niveau d'être unique, alkol hacha hemecha. Alors tu es obligé d'admettre que c'est d'une même chose. Même si elles sont venues dans un temps différent, mais c'est la même. Donc, cet âne, c'était pas le même âne, mais c'est le même âne qui était là chaque fois. Est-ce que c'est clair? Je vous rappelle quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est le même Inyan. Le même Inyan, ça veut dire, c'est la même définition. C'est le même caractère spécifique. C'est-à-dire quoi? Ce niveau simple, indifférencié de la matière, qui seul peut être point d'insertion dans la matière pour le juste, pour l'homme de sainteté. Et c'est arrivé trois fois. Ce serait vraiment intéressant de reprendre tout le chapitre dans une toute autre dimension, c'est-à-dire de comprendre ce qu'il y avait de différent pour Abraham, pour Moïse et pour le Mashiach. Mais ici, nous sommes dans le principe que c'est un âme unique, bien que ce ne soit pas le même, il va nous le dire. Parce que l'un vivait au temps d'Abraham, l'autre est apparu au temps de Moïse, et le troisième au temps du Mashiach. Où est le problème? Mais ce que je veux dire, c'est que ce principe est important. Nous avons donc des exceptions au fait que rien n'est égal. Mais parce qu'il peut y avoir une réalité qui est la même, à des occasions différentes, à des occurrences différentes. Je vous rappelle simplement comment nous avions appris cela, c'est qu'en hébreu, égal se dit chavé avec ré. Ok ? Chavé, ça veut dire égal. Mais il y a le mot chav qui est très proche, avec aleph, et qui signifie. Je crois qu'il y a ici un chevapatar, il faut le grammairien. Il n'y a pas de grammairien. Bon. Et qui signifie vain. C'est-à-dire, s'il y a deux choses égales, il y en a une des deux qui est de trop. Si elles sont vraiment égales. Alors ça n'existe pas, une égalité absolue. Ici, il faudrait faire appel aux mathématiciens, mais enfin, il n'y a qu'en mathématiques qu'on pourrait parler à la rigueur d'égalité absolue encore. Voilà. C'est pas évident que 10 fois 1 égale 1 fois 10. En tout cas, en pharmacie, c'est pas évident. Si vous prenez 10 fois un cachet de Gardénal et puis une fois 10 cachets de Gardénaux, eh bien, c'est pas exactement la même chose. Mais finalement, lorsqu'il arrive que c'est le même sujet, comme dit le Maharal Inyan, faudrait dire peut-être en français le même objet, enfin, la même réalité, alors on peut dire que c'est davar echad, que c'est une chose unique. Ça ne signifie pas, d'ailleurs, que dans le monde de la représentation de l'espace et du temps où Abraham, Moïse, puis le Mashiach vivent, ce ne sont pas trois exemplaires du même homme différent. C'est clair ? Bon. Alors, ce qu'il faut surtout prêter attention, c'est pourquoi le Maharal tient à s'occuper de ces détails apparemment futiles. On a dit l'essentiel déjà. Et puis là, il semble que ce soit des dimensions extrêmement restreintes du sujet. Cependant, elles sont importantes et il faut bien les comprendre. Ça veut dire que, quelles que soient les apparences, un hébreu du temps de Moïse n'est pas différent d'un hébreu du temps d'Abraham, et c'est Abraham qui est l'hébreu, et qu'un hébreu du temps du Mashiach n'est pas différent d'un hébreu du temps d'Abraham. C'est-à-dire il y a Inyan Echad, il y a Davar Echad, que nous verrons à partir de demain déjà, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, mais sur un autre thème. Parce qu'on pourrait se dire, mais en fait, les hébreux du temps de la sortie d'Égypte, du temps de Moïse, c'est pas les mêmes que les hébreux du temps des patriarches, que les juifs du temps du Mashiach, c'est pas les mêmes, que non, il y a là une réalité unique, et par conséquent, leur hamour est aussi unique. Bien. Al-Kor Hacha Hem Echad, nous étions arrivés donc au milieu de la troisième ligne, Vecholelou Shlosha Rechivot, et ces trois, comment traduire en français, ces trois enjambements, non, je ne sais pas, chevauchements, Inyan Echad, c'est le même sujet. Enfin, le même, il faudrait dire, c'est un sujet un, unique. Leit Romem Ala Olam, de s'élever au-dessus du monde, de Leit Romem, donc de se hausser au-dessus du monde, Imken Yishlaim Inyan Echad. Et par conséquent, ils ont le même sujet, la même définition, chez Nibra Ben Hashemashot, le fait d'avoir été créé en ce temps de crépuscule de la fin des six jours du commencement, avant le jour du Shabbat. Umikol Sheken, Sharechivazot, It'alut ala olam, et à plus forte raison que la définition de ce chevauchement, c'est la définition de se surhausser sur le monde. Or, le monde est un pour ces trois justes différents. Et c'est pourquoi, bien qu'il s'agisse de trois justes différents, cet âne était un, qui a rechiva achat al olam echad, parce qu'il s'agit du même comportement par rapport au même monde. Et comprend bien ces choses très grandes. qu'est-ce que le Maharal désigne ici? Le fait de l'identité de comportement entre Abraham, Moïse et le Mashiach. Ve'en ata tzarich lomar klal, et il n'est pas nécessaire de dire qu'izé hamor, que cet âne haya hamor hashuv yoter, était plus ou moins important que notre âne. Ou she'ayabo chokhma vada'at mitzad asmo, ou bien qu'il possédait connaissance et sagesse par lui-même. She'en ata tzarich lomar she'ish hashibush klal, hashibut klal b'hamor hazé, il n'est pas nécessaire de dire qu'il y avait à cet âne une importance quelconque. Rak shekach raou lefi hametziut. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cela a été nécessité dans l'existence chez Yemesudar Laem et Ben Hashemashu, que cet âne leur soit préparé depuis le crépuscule du commencement. Hamor ze sheula tzadik anivdal rochev al chomer haolam. Cet âne approprié au juste séparé du monde et chevauchant, dépassant la matérialité du monde. Et cette explication est claire. Vena piru shenibra, vaya hay kolkar mizman shenibra olam azman Abraham Moshe Mashiach. Et on ne doit pas non plus comprendre que l'explication serait que cet âne a été créé au commencement et qu'il a vécu depuis le temps où il a été créé jusqu'au temps d'Abraham, de Moïse et du Messie. La chose n'est pas ainsi. Mais le sens qu'il faut attribuer à cet enseignement, le temps, c'est l'ordre dans lequel les créatures doivent être créées. Je veux dire, les créatures sont créées chacune en leur temps. Littéralement, Hazman, le temps, Mesudar est ordonné. Liot abriot nivraimbo, pour de telle sorte que chaque créature soit créée en son temps. Et donc ce n'est pas le même âne qui, depuis le début de l'histoire du monde, a vécu jusqu'au temps d'Abraham, jusqu'au temps de Moïse, etc. Parce que chaque fois, mais c'est un âne qui vient toujours de Erev Shabbat Ben Hashemash, c'est-à-dire qui a cette nature-là particulière. Et le Maharal nous explique la preuve de cela, que les créatures sont ordonnées dans le temps, c'est qu'il y a eu 6 jours du commencement. Et dans ces 6 jours, chaque chose a été créée au jour qui lui était convenable. Vous retrouvez ici quelque chose qui nous frappe très souvent chez le Maharal, cette notion de Seder Haolam, qu'il y a un ordre des choses. La Chochma, nous dirait le Maharal, c'est la chokhma du Seder Haolam. Il n'y a d'autre chokhma que celle de l'ordre des choses. Umeachar shelu shlosha tzadikim, et par le fait que ces 3 justes, hayu tzrichim lahamor, avaient besoin de cet âne, ou disons avaient besoin d'un âne, mipenei shehayu rochvim al chomer haolam umitnasim alav, parce qu'ils surmontaient, enfin ils chevauchaient la matière du monde et la surmonter. Haya atchalat b'riyato shel hamorze ben hashemash. Le commencement de la création de cet âne a été au crépuscule du 6e jour. Mais dans la correspondance des millénaires, eh bien, il suffira de se demander quelle époque serait ce Erev Shabbat ben hashemash. Nous sommes à l'année 5700 et quelques, on s'approche bientôt de Erev Shabbat ben hashemash, d'après le compte du calendrier. Puisque, en principe, Erev Shabbat a commencé en l'année 5728, donc nous allons peut-être faire connaissance avec cet âne. Okay. Surtout ne réagissez pas. Benachem Hashot Nibra Mesudar, et ce temps du crépuscule lui-même a été créé, ordonné. Seder Ze Bekoach, cet ordre-là a été ordonné, a été créé, Bekoar, potentiellement, l'Iyot Yotze Apoal, pour se réaliser, les gamres, complètement, Be'et Atzorech, au moment où cela est nécessaire. Ve'aven Zemeot, il comprend cette chose beaucoup. Kihem Devarim Berurim, car ce sont des choses claires, Kacher Tavin Divrei Hachamim, lorsque tu comprendras les paroles des sages. Je reviens un petit peu simplement, puisque de nouveau le Maharal nous provoque ici, sur le principe de méthode que j'ai indiqué tout à l'heure rapidement. C'est que, il y a d'ailleurs un enseignement de cet ordre dans la Akhdama au Sefer Zaharim de Maïmonide, au début de la Mishnah, lorsqu'il parle de la nature de l'enseignement de sagesse qui vient des Midrashim et des Haggadot. C'est qu'on ne peut pas rejeter un des deux côtés du sens. Le sens abstrait est absolument vrai et le sens concret est absolument vrai. Et quand il dit il faut comprendre l'enseignement des sages, il y a dans ce problème ce point en particulier. C'est-à-dire de comprendre que la vérité d'une réalité et que la réalité d'une vérité. Et que séparer les deux niveaux, c'est précisément ce dualisme qui a mis en congé, finalement, la sagesse propre à l'enseignement de la Torah. Bien. Vetabin Yamken, la Maelush Losham Yuchadim Neitnaseut Alachamo. Et tu comprendras aussi pourquoi ces trois personnages, Abraham, Moïse, le Messie, sont concernés, en particulier Meyuchadim, par ce fait de surmonter la matérialité. Et qu'est-ce qu'il y a dans la matérialité? Non pas l'ordre des choses. Ça, c'est la volonté du Créateur telle qu'elle est projetée dans l'être, telle qu'elle est projetée dans la réalité. Mais c'est la détermination qui entraîne le contraire du projet du Créateur, c'est-à-dire la mort et l'impureté. Vézé qui est l'osha kohot badama prati. On va encore changer de registre. Il y a, nous dit le Maharal, trois fonctions dans l'homme à l'échelle individuelle. Amitnasim ala adama prati. Et ces trois fonctions, il est possible qu'il faille vérifier dans un texte beaucoup plus ancien, cette expression amitnasim ala adama prati me paraît un peu difficile. Il est possible qu'il y ait ici une erreur d'impression, je ne sais pas. Mais enfin, il faudrait traduire ici qui surhausse mitnaseim à la chomriut sur la dama prati, sur la matérialité qu'il y a dans l'homme individuel, mais pas sur l'homme individuel lui-même. Mais il est possible que ce soit quand même cela que le Maharal a voulu écrire. Nous continuons. Vemniv dali minagouf. Et ce sont des forces séparées, abstraites par rapport au corps. Loit arvu et magouf klal. Et ces forces ne se mélangent en rien au niveau corporel. Voyez donc comment la correspondance va nous être enseignée ici. Par rapport à l'homme individuel, le homer du monde, c'est le gouf, c'est le corps. Et n'oublions pas que le corps est vivant. Ce n'est pas la notion de corps mort qu'il y a ici, de corps inerte. Le corps, être biologique, est vivant. Et c'est précisément parce qu'il est vivant qu'il y a en lui impureté. Mais ce corps est véhicule de trois fonctions, de trois forces, du nefesh, qui ne se mélange en rien avec cette vie biologique qu'il apporte. Ve'elou, ashalosh kochot, et chacune de ces trois forces, yesh lahem mekomot mechulakim bamoach. Est-ce qu'on peut allumer? Ils ont une place différente, une insertion différente dans le cerveau. Aechadu be'atchalat hamoach. La première de ces forces se trouve dans le cerveau antérieur, je pense qu'on dirait cela comme ça, le frontal. Vacheni ba'emtsa, la deuxième de ses forces au milieu. Vachlishi ba'acharit amoach, c'est quoi ça? L'occipital. Hein? Et là le. Et la troisième, non. J'ai lu il n'y a pas assez longtemps quand même, pas tellement, un livre qui s'appelle Le cheval dans la comédie. Vous avez vu? Kessler. Et qui parle de trois cerveaux. Le reptilien, c'est ça. Il y a un crocodile, un hippopotame et quelque chose. Alors, qu'il y aurait fait. Ici, je vous le signale parce que nous avons dans la Kabbalah beaucoup de textes qui parlent un peu comme ça. Okay? Tlat Mohim. Il y a trois cerveaux, l'un plus caché que l'autre. Et je crois que ce n'est pas nécessaire du tout d'aller dans les correspondances. Je crois d'ailleurs que le savant qui a le premier essayé de faire des correspondances entre les fonctions de l'intelligence et de la pensée, le cerveau s'appelait Broca par hasard. C'est lui, oui. Les localisations de Broca, c'est pas ça? Oui. Bien. Alors, passons. Et Voilà, donc un premier postulat que le Maharal nous donne, il y a trois cerveaux. Rabbi Abraham ibn Ezra, le parasha de Kitissa, dans son commentaire sur la parasha de Kitissa, a expliqué chez Elouch le Jacobot que ces trois forces, Nikreou, Chokma ou Bina Vadaat, sont appelées la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Il y aurait donc trois manières de connaître qui seraient situées comme trois fonctions différentes et avec comme véhicule dans le cerveau des localisations différentes. Ulfizé, et d'après cela, Iye Chokma mityahes le Abraham. Il faudra relier la sagesse, la chokma, à Abraham. Mashiaya Abraham, masil midartu me chokmato. Ce qu'Abraham était capable d'atteindre par sa propre sagesse. Kemoshe darshuzav. Comme nous avons un enseignement du Midrash dans Bereshit Rabba qui dit, à propos du verset du Cantique des Cantiques, Achotlanu ktana veshadai menla. Notre sœur est petite, nous avons une sœur petite et qui n'a pas encore de sein. Ici, il y a une allusion, les Shadaïm ici sont l'allusion comme étant Dadea Chokma, le lieu d'où vient la sagesse. Et ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas de Shadaïm, qu'elle n'a pas de saint? Shelo Eniku Torah. On ne l'a pas encore abreuvé de la Torah. Keneged Elou. Attendez. Changez de paragraphe, là il y a une erreur. Shelo Eniku Torah ou Mitzvot. Prenez le paragraphe. Il y a eu une intervention. Prenez le dernier paragraphe. Ve'amru, et on a dit dans Bereshit Rabba, à propos d'Abraham, She'ayu shtekiliotav na'asim lo bishner kishner rabanim, ve'ayu melamdim lo Torah u'mizvot. Et on a dit à propos d'Abraham, et vous l'avez donc dans Bereshit Rabba, ça se trouve aussi dans une Gemara, que les deux reins d'Abraham était pour lui comme deux maîtres, et il lui enseignait la Torah et les mitzvot. Vous voyez qu'ici nous avons, en tout cas dans cette deuxième expression du Midrash, je voudrais aller rapidement pour terminer de traduire avant l'heure, le fait que c'est dans la nature biologique même de l'identité humaine en Abraham qu'est la source de son identité hébraïque. C'est-à-dire, s'il comprend la sagesse comme il la comprend, ça lui vient de ses reins, le Midrash, que cite le Hoker Klayot Valet. Alors on pourrait passer à des régimes, encore une fois, symboliques, mais ça ne serait que du symbole. Il faut d'abord comprendre l'enseignement concret qu'il y a là. Que ce qui fait qu'Abraham l'hébreu est Abraham l'hébreu, ça lui vient de son corps. Alors, j'avais fait allusion à cela dans les premiers cours, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là. Ça n'a rien à voir avec ce que serait un racisme biologique. Parce que cette identité hébraïque, on peut l'acquérir, même si on ne l'a pas eu de naissance. Il restera une petite différence. C'est qu'à l'échelle de sa propre vie, un converti ne peut pas être prophète. Parce qu'il reçoit la capacité, un juif reçoit la capacité prophétique de la collectivité d'Israël. Et comme il n'est pas né dans la collectivité d'Israël, il ne peut donc pas être lui-même prophète. Mais déjà sa descendance peut l'être. Puisque sa descendance sera née. Donc il n'y a en rien ce qu'on appellerait un racisme biologique, bien que l'affirmation est absolument celle-là. Ce qui fait qu'Abraham est Abraham vient de ses reins, vient de son corps. Par le fait que c'est le cas particulier dans l'histoire de l'humanité. C'est la seule identité humaine qui peut s'acquérir. On ne peut pas devenir quelqu'un d'autre. Juif, on peut devenir. Bon, il faudrait répéter ça au marteau-pilon 100 fois, parce que nous sommes tellement intoxiqué par la propagande anti-juive, qu'on ne voit pas la différence. C'est une différence de nature. Le judaïsme est la seule doctrine qui ne soit pas, qui soit vraiment universaliste. Mais pour être cet universel humain-là, il faut être hébreu. C'est ça qu'on veut, qu'on ne veut pas accepter d'entendre. Comme on dit, il ne s'agit pas du cosmopolitisme abstrait d'un être culturel. Ça n'existe pas. L'hébreu, c'est un être réel. C'est pas un théorème. Vous comprenez ce que je veux dire. Être hébreu, c'est pas être cosmopolite branché sur une culture abstraite. Voilà. C'est faire partie d'une nation. Mais cette nation, son identité, premièrement biologique, est l'homme universel. Tant qu'on n'a pas entendu ça, on comprend rien à l'histoire juive. Voilà. Alors voilà ce que je veux ajouter, c'est que C'est la seule identité qui peut s'acquérir. La preuve, c'est Abraham lui-même. Puisque c'est Abraham lui-même qui est devenu le premier hébreu. Donc on peut, pas au niveau d'Abraham, bien sûr, chacun à son niveau, mais nous sommes tous un petit peu comme ça. Et vous savez d'ailleurs que c'est la règle, lorsqu'il y a un converti à Israël, on l'appelle Abraham, précisément pour cela, parce qu'il a fait le chemin d'Abraham. Bon, je pense que c'est clair. Il faut entendre ce midrash, si vous voulez, vraiment à la lettre. Hein? D'où vient l'évidence de compréhension de l'hébreu? Ça lui vient d'une option qui est au-delà de l'analyse logique, qui est au-delà de l'analyse purement intellectuelle, je veux dire. Le fait de consentir, d'acquiescer, de pouvoir être sensible à l'évidence comme ça et pas autrement. Vous savez, dès qu'il y a une équation, surtout dans les choses de la philosophie, eh bien, le fait d'être sensible à tel aspect de l'évidence, c'est une option radicalement libre et qui n'est contraint par aucune, quoi qu'en ait dit les logiciens, qui n'est contraint par aucune nécessité intellectuelle. Le fait de consentir à l'évidence d'une signification. Eh bien, cela, d'où cela vient? Ça ne vient pas de l'esprit, ça ne vient pas de l'intelligence, ça vient des reins, nous dit le Midrash. C'est les reins d'Abraham qui étaient ses deux rabbins. Vous voyez à peu près Est-ce que je suis arrivé quand même à exprimer cela? Parce que c'est malgré tout une donnée extrêmement délicate. Hein? Il y a chez M. Lévinas un texte qui est apparu il y a déjà assez longtemps, mais je ne me rappelle plus où il a fait, où l'avait fait paraître ça, et qui se base sur cet enseignement. C'est la fameuse Gemara qui dit « Atem Krui Madam ». Ça veut dire peu importe le vocabulaire, je crois ici c'est l'idée qui est importante. Il y a une spécificité hébraïque radical. Un hébreu, c'est pas la même manière d'être homme qu'un autre homme. Et d'ailleurs, c'est vrai pour tous les hommes. Pour chacun, sa manière d'être homme n'est pas la même que pour l'autre. Un Corse, c'est pas un Auvergnat, et un Français, c'est pas un Allemand, et un Allemand, c'est pas un Russe, etc. Bon. Mais dès qu'on parle des Juifs, on commence à s'énerver. Et alors, là, il faut savoir qu'un hébreu, c'est un homme qui est une manière d'être homme différente de tous les autres, comme chacun est différent de tous les autres. Mais au-delà, c'est que cette spécificité radicale de l'hébreu, c'est d'être l'être universel. Et donc on ne peut pas le comprendre tant qu'on n'est pas hébreu. Et on ne peut pas le voir tant qu'on n'est pas hébreu. Parce qu'on peut le pressentir de loin. Et c'est un peu ce dont nous avons parlé tout à l'heure, en parlant de la trace d'Israël dans le monde, qui est divinisée par toutes les civilisations qui la diagnostiquent. Il s'est passé quelque chose quand le juif a passé. Et alors on adore ça. Bon, mais ça c'est la réaction des païens. Et cela n'est pas de nature philosophique, ou comme on dirait aujourd'hui, un fait culturel. Bien sûr que ça comporte un fait culturel, mais c'est un fait anthropologique. Il y a un anthropos hébreu. Je n'ai pas dit biologique, bien qu'il y ait une base biologique. Pourquoi? Et c'est là que je veux insister. Parce que c'est le cas particulier de toute l'histoire des hommes. C'est que c'est la seule identité humaine anthropologique qui peut être acquise. Vous comprenez? Un juif ne deviendra jamais un français. Il peut être citoyen de l'État français, ça n'a rien à voir. Citoyen, c'est une catégorie juridique, vous comprenez? Mais un juif ne deviendra jamais français. Un français peut devenir juif, c'est un mystère. Le mystère, c'est qu'on peut devenir hébreu, alors que français, on ne peut pas devenir. On est condamné à cela par naissance. Si vous voulez, le mystère, c'est qu'il y a des juifs qui se prennent pour des français, alors qu'il n'y a pas de français qui se prennent pour des juifs. Bon, ça, ce sont les histoires juives habituelles. En tout cas, vous voyez où nous sommes arrivés avec ce midrash. C'est qu'il y a là une réalité de l'ordre du hamor. C'est le hamor qui fait l'hébreu. Alors, les Arabes devaient savoir ça. Je me rappelle en Afrique du Nord. Chaque fois qu'un arabe s'adressait à son âme, il l'appelait Yel Lehoudi. Je ne sais pas si vous rappelez. Qu'est-ce que je vous dis?
Justement habitué à penser que le maître, c'est la chose qui est à l'extérieur. Or, dans le cas d'Abraham, c'était à l'intérieur de ses entrailles.
Oui, c'est-à-dire sa manière d'être homme, le fait qu'il était hébreu, c'est ça qui l'a enseigné. Il n'y a pas de doute.
Pourquoi les reins, justement?
Mais les reins, c'est le lieu, dans le vocabulaire biblique, oui, des générations, de l'engendrement. Il ne s'agit pas le rein, les reins du filtre de... non, ce n'est pas ça. Clayot, c'est... Pourquoi j'ai cité Hocker Clayot Valev? C'est le terme pour dire les engendrements. Bien, nous allons, si vous voulez, prendre 5 minutes d'interruption et terminer donc ce texte. Bonjour. Tu étais à la conférence hier soir. Bien, nous allons reprendre. Alors, je vous rappelle que pour l'identification de ces trois moments de l'histoire par rapport au thème du Hamor, donc, c'est-à-dire Abraham, Moïse et le Mashiach. Mais le Maharal nous donne d'abord un premier principe de classement, si j'ose dire, ou d'analyse. C'est Chochma Bina Veda'at. Je vais vous donner le principe pour nous aider à la lecture. Et dans ce principe, Chochma, la sagesse, c'est-à-dire la capacité de comprendre l'objet de connaissance comme l'objet est. C'est Chochma. Eh bien, cela est relié à Abraham. Bina sera relié au Mashiach, nous verrons pourquoi immédiatement, et Da'at à Moïse, dans le premier principe d'explication. Alors, je reprends les sources. Pour Abraham, essentiellement ce deuxième midrash, She'ayush tekl kiliotav na'asim lo kishne rabbanim ve'ayu melamdim lo Torah o mitzvot. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Que Abraham n'a pas eu de maître. Or, nous savons qu'Abraham a eu des maîtres. En particulier, nous en connaissons deux qui s'appellent Shem et Ever. Et nous avons d'autres sources. C'est aussi un principe de méthode d'exégèse. C'est que nous ne pouvons comprendre dans la cohérence de la tradition juive comme tradition, nous ne pouvons comprendre chaque source d'enseignement que corollairement à l'ensemble, à l'unité de la connaissance. On ne peut pas mettre en compétition un midrash avec un autre. Tant qu'on n'arrive pas à comprendre l'unité de sens, c'est qu'on n'a rien compris, ni dans un cas, ni dans l'autre. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? C'est un peu schématique, mais... Eh bien, nous avons d'autre part le fait que Abraham, comme les autres patriarches, ont étudié à la yeshiva de Shem et de Ever. Shem étant donc cette manière d'être homme à partir du premier homme à travers qui passe la lignée centrale des engendrements, Shem, et qui est l'ancêtre de Ever, qui est lui-même Ever, l'ancêtre d'Abraham à Ivry. Abraham l'hébreu. Abraham l'hébreu avait un ancêtre qui était l'hébreu, Ever, avec Aïn. Simplement une indication, et que ça veut dire qu'il y a toute une sagesse qui a été reçue par les patriarches de leurs devanciers, des initiés des générations précédentes, qui est indispensable, préalable au fait de recevoir la Torah. Cette sagesse que certains textes appellent la sagesse du Derech Eretz. Comment traduire ici, sur ce point, la culture indispensable, mais qui est propre à la terre, préalable à toute révélation. Il faut arriver au bout de la réussite du Derech Eretz pour pouvoir entendre la révélation de la Torah. Et, c'est-à-dire d'arriver au bout de la capacité de sagesse propre à l'homme. Et à ce niveau-là, il y a inauthenticité possible ou authenticité. Le critère de cette authenticité passe par une manière d'être homme qui consiste à être l'homme hébreu. Pas n'importe quel hébreu. Fils de Ever, fils de Shem. Bon, Shem, mais en français ça devient un peu vague. Ce sera l'identité sémite, si vous voulez, plus générale que l'identité hébraïque. Mais l'identité hébraïque, C'est elle qui va faire apparaître Abraham. C'est très frappant que ce n'est pas de n'importe quel ancêtre antérieur qu'Abraham aura son nom de hébreu. Et ensuite, d'autres textes vont nous montrer que ça a aussi d'autres sens. Par exemple, le fait qu'Abraham était Mi'ever Echad, d'un côté du monde, et le monde entier de l'autre côté. Et, ou d'autres indications plus historiques, cela étant plus situationnel, si j'ose dire, que l'identité hébraïque vient de l'autre côté du fleuve. Mi'ever Nahar, et ce fleuve, c'est l'Euphrate. Bien. Ou toute autre utilisation de la catégorie l'hébreu, celui qui traverse, qui passe au-delà, qui passe à travers, qui fait passer les autres. Il y a un très beau texte de M. Meir sur l'hébreu étant le passeur, celui qui fait passer les hommes d'une rive à l'autre rive. Mais tout cela, c'est aussi intérieur à cette catégorie. Il y a d'abord une catégorie anthropologique, d'identité, de manière d'être homme. Simplement une indication, puisque je me réfère de nouveau à ce point, c'est que Shem a fait le tikkun de la relation à Dieu et Ever a fait le tikkun de la relation à autrui. Les deux mitzvot fondamentales. L'amour de Dieu, l'amour d'autrui. Et de Shem, on le comprend très bien. De Ever, vous verrez dans le contexte, c'est le premier homme avant Abraham qui aura été nommé du nom de frère après le meurtre de Abel par Caïn. Lorsque Abel a été tué par Caïn, le mot de frère a disparu du texte, sauf pour dire une fonction, les enfants de l'émer. Mais ce mot de frère ne reviendra qu'avec Abraham. Or, une fois il est indiqué, à propos de Ever, qui est appelé Ahi Yefet Agadol, le frère du grand Japhet. Je vais entrer dans le contexte lui-même, et pour indiquer cela, c'est que Shem a fait le tikkun de Mitzvot Ben Adam Lamakom, et Ever le tikkun de Mitzvot Ben Adam Lachavero. Dans la famille de Ever, on peut être frère. Dans la famille de Shem, on peut être croyant. Mais dans la famille de Ever, on peut être frère. Et alors, c'est de là que vient Abraham. Vous voyez, toute cette sagesse préalable qui vient de la yeshiva de Shem et de Ever, et qui fait qu'Abraham est Abraham. Alors, ça ne veut pas dire qu'Abraham n'a pas eu de maître. Mais ça veut dire que s'il a pu comprendre ses maîtres, c'est parce qu'il avait les reins d'Abraham. Voilà comment on pourrait le dire. Est-ce que c'est clair? Bon, on peut avancer si vous voulez. Alors c'est ça, cette chokhma qui lui est permis, qui lui est rendu possible par un certain anthropos, que j'appellerai l'anthropos hébreu. Et c'est un concept, enfin une catégorie qui me paraît plus appropriée, bien que c'est un mot grec, que disons le mot de humanité. Parce que anthropos, ça implique le caractère spécifique qui n'est pas dans l'humanité. Parce que l'humanité, je l'ai dit au début, l'humanité est universelle en tout homme. Et cependant, tous les hommes sont différents. Mais on ne voit pas en quoi la catégorie d'humanité implique, aménage cette différence spécifique de chacun. On dit que celle d'anthropos est beaucoup plus particularisé, et on pourrait dire Adam, si ce n'était pas un mot hébreu, mais comme on parle français, le mot de Adam en français n'a pas encore ce sens que j'essaye d'indiquer de manière d'être homme. Ça a trop gardé une signification plus homilétique. Enfin, dès qu'on dit Adam, alors on voit l'Éden adamique, c'est le sens qu'il faudrait employer. Atem kurim Adam. Bon. Alors, Bina, pardon.
Le mot agalité pareil dans la littérature chrétienne en ce
moment. Mais pour dire avec quelle. Actuelle, contemporaine. Oui, ça je peux le penser. Mais avec quel sens, quelle connotation exacte?
Simplement le premier homme, ancêtre du Messie, mais ce n'est pas le même Messie.
Non, ça c'est encore un autre problème. Je veux dire, voilà, que le mot de humanité est en français est encore trop chargé de connotations purement morales. Ça veut dire c'est humain, c'est pas humain, ça veut dire charitable, ça veut dire juste, ça veut dire surtout des catégories morales. Mais il n'y a pas cette indication anthropologique qui fait qu'une manière d'être homme en particulier comporte l'identité humaine, disons originelle, mais je veux dire surtout authentique. Ce qui nous est bien montré par le récit biblique des lignées d'engendrement. Ce projet Adam, eh bien finalement, passe par Shem. Et après Shem, pas par n'importe quel enfant de Shem, par Ever. Et après Ever, par Abraham. Et après Abraham, par Isaac. Et après Isaac, par Jacob. Et c'est lui Israël. Alors en fin de compte, Adam se retrouve en Jacob. Mais par cette lignée-là. Tous les autres sont des fils de l'homme. Mais Atem, Kruim, Adam, Mamash. Ça sera dit. Aïe.